Studio Tamani, voici nos informations en français.
Et c'est avec Imran Akilu à Maïga. Le Mali fait partie des 7 pays les plus vulnérables au changement climatique dans le Sahel, selon la Banque mondiale. Au même moment, le système d'alerte précoce souligne que près de 2 millions de personnes sont en insécurité alimentaire au Mali. Les autorités scolaires de Yoroso s'activent en faveur de la réouverture des écoles fermées dans les zones d'insécurité. Elles entendent recruter des enseignants volontaires pour certaines communes du cercle. Sport, football, compétition de la Coupe CAF. Le Scorpion de Bamako affronte cet après-midi à Bamako l'AS Douane de Burkina. Hier soir, le Djoliba AC s'est qualifié pour la seconde phase de la Ligue des champions africaines. Voilà pour les sommaires de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le Mali, le Niger et le Tchad figurent parmi les 7 pays les plus vulnérables au changement climatique dans le monde. C'est ce qui ressort du rapport national sur le climat et le développement récemment publié par le groupe de la Banque mondiale pour le Sahel pour les pays du G5 Sahel. Au cours d'une téléconférence tenue ce lundi à Washington, les auteurs de ce nouveau rapport estiment que le produit intérieur brut des pays sahéliens pourrait diminuer de 7 à 12% d'ici 2050. Maman Babakunta.
Ces documents indique que le changement climatique renforce les cycles de pauvreté, de fragilité et de vulnérabilité dans le Sahel, explique Ousmane Gagana, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et centrale.
Il est vrai, dans cet espace, à cause de l'insécurité, les déplacements des populations sont réels. On le voit au Burkina Faso, on le voit bien sûr au Mali. Mais les déplacements internes aussi, résultats du changement climatique, sont significatifs.
Les rapports montrent que les dégâts causés par les changements climatiques peuvent être significatifs et réduits et que le coût de l'inaction s'avère bien plus élevé que celui de l'action. Elizar Baroudi, spécialiste principal sur la gestion des ressources naturelles.
Avec une assistance technique, ça pourra être possible de vraiment démarrer tout ce qu'il faut faire pour avoir encore mieux le financement climatique et pour mieux exploiter les possibilités de financement pour toutes les mesures d'adaptation.
Les auteurs du rapport ont également affirmé que des millions de personnes à travers la région sont exposées au risque ou déjà en situation d'insécurité alimentaire du fait d'une production agricole décevante liée au choc climatique, à la montée de l'insécurité et à des prix alimentaires élevés. La crise de la situation alimentaire au Sahel devrait encore s'aggraver en 2022, ont-ils ajouté.
Maman Babakunta, près d'un million 800 000, c'est le nombre de personnes en insécurité alimentaire au Mali, enregistré au titre de l'année 2021-2022 selon le système d'alerte précoce. Pour ses responsables, une stratégie nationale de riposte a été mise en place pour venir au secours de ces personnes vulnérables. Parmi les mesures édictées dans ce plan figure la distribution gratuite des vivres. Moussa Goïta, coordinateur national du système d'alerte précoce SAP, est au micro de Ali Cissé.
Au sortir de la campagne passée, c'est-à-dire la campagne 21-22, nous étions à 1 800 personnes qui étaient en insécurité alimentaire. Déjà, le Mali a pris un certain nombre de dispositions pour répondre aux soucis de ces personnes-là. Ce plan national de réponse prévoit qu'il y ait des distributions alimentaires gratuites à l'endroit de ces personnes qui sont le mil, sorgho et maïs selon les différentes régions. Ensuite, des activités de résilience aussi ont été faites à l'endroit de ces personnes pour leur sortir de cette vulnérabilité. Il y a même eu des transferts monétaires dans quelques zones. Ça ne se limite pas seulement aux personnes, même les animaux sont concernés, puisqu'il y a eu même des distributions d'aliments bétail, soit gratuitement ou de façon subventionnée.
Et réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. L'affaire des 49 soldats ivoiriens arrêtés à Bamako sera au centre des discussions du sommet de la CEDEAO, laquelle des chefs d'État de l'organisation se tient ce mardi 20 septembre 2022 à marge de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Le colonel Abdoulaye Meïga, premier ministre par intérim, accompagné d'une délégation, prendra part à cette 77e session avec d'autres chefs d'État de la CEDEAO. La session de l'Assemblée générale de l'ONU a démarré à 9h à New York et se poursuivra jusqu'au 26 septembre. Le Conseil supérieur de la diaspora malienne CSDM rejette une disposition de la loi électorale. L'organisation proteste contre l'article 178 de cette disposition qui stipule que les Maliens établis à l'extérieur sont représentés par 3 conseillers nationaux élus suivant les règles déterminées par le Haut Conseil de Maliens de l'extérieur. Selon le CSDM, cela donne l'exclusivité de représentants de la diaspora au seul Conseil de Maliens de l'extérieur. Il demande au CNT de retirer cet article dans la loi électorale. Mohamed Sherif Haïdara, président de la CSDM, il est joint au téléphone par Moussa Malé Sissoko.
Dans cette loi électorale, nous avons retrouvé un article qui n'existait pas pendant l'élaboration de l'EPEDELEJ. Après, nous avons une nouvelle version où l'article 183 s'est retrouvé dans cette loi. Cet article disait exactement ceci. Le Malien établi à l'extérieur sera représenté par 3 conseillers au Conseil économique et social. Les conditions d'éligibilité seraient définies par le Haut Conseil, le Malien de l'extérieur. Nous rejetons simplement la disposition de l'article 178. C'est à notre grande surprise qu'on retrouve l'article 178 dans la loi promulguée. C'est purement et simplement annuler cet article parce qu'il est pour nous inacceptable.
À Yorosso, les autorités scolaires préparent activement la rentrée scolaire prochaine. Les initiatives tournent autour de la réouverture des écoles fermées à cause de l'insécurité et le recrutement d'enseignants volontaires pour certaines communes du cercle. Pour en savoir plus, suivons ce reportage de notre correspondant à Yorosso, Ali Haïdara.
À Yorosso, plus d'une cinquantaine d'écoles sont fermées depuis 2019 pour des raisons sécuritaires. Des initiatives locales ont permis la réouverture de certaines d'entre elles, avec le recrutement d'enseignants volontaires. N'Golo Goïta, maire de la commune de Koumbia.
Moi-même, j'ai appelé les autorités à Bamako pour leur expliquer que nos parents qui ont terminé leurs études et qui n'ont pas d'emploi peuvent être recrutés pour dispenser des cours dans nos écoles. C'est ainsi que les parents d'élèves ont accepté de payer 8 500 francs par élève pour qu'on puisse prendre en charge ces enseignants volontaires.
Une fois recrutés, ces enseignants reçoivent des accompagnements de la part des autorités scolaires et de certains partenaires. Mamadou Berthé, directeur du centre d'animation pédagogique de Yorosso.
Lorsque les communautés arrivent à recruter des enseignants volontaires, on va voir dans quel cadre on peut faire en sorte que ces enseignants volontaires soient dans les conditions de faire leur travail pédagogique, notamment à travers la formation, mettre aussi des kits à la disposition des enfants, et réhabiliter les salles de classe si c'est possible.
D'autres communes sont à pied d'œuvre pour que toutes les écoles fermées soient réouvertes pour la rentrée scolaire prochaine prévue le 3 octobre. De Yorosso, Ali Haïdra pour Studio Tamani.
Ces dernières années, les conditions de vie des femmes veuves militaires ont été améliorées. La pension de réversion de certaines veuves militaires a augmenté de plus de 300%, affirme la Fédération d'associations de veuves militaires du Mali. Au même moment, les enfants dont les parents sont morts en mission de l'État sont pris en charge par le gouvernement dans le cadre de la célébration de la fête de l'indépendance du Mali. Studio Tamani s'est intéressé à leur cas. Omar Ouigalo.
Pour la Fédération d'associations des veuves militaires du Mali, les femmes dont les maris sont tombés sur le champ de bataille bénéficient de plus de soutien. Ces aides viennent de l'État, des ONG et des particuliers. Selon Mme Keita Djenaba Keita, présidente de la Fédération d'associations des veuves militaires du Mali, la pension de réversion des veuves a été triplée ces derniers temps.
La situation des veuves militaires pratiquement au Mali, vraiment ça s'améliore parce que pas mal de choses ont changé. Vu les conditions alimentaires, les conditions de logement, tout a changé maintenant. Sinon, auparavant, là, moi, j'avais des veuves qui ne touchaient que 11 000 francs de pension, mais maintenant, ils ont plus de 40 000 francs.
En plus des veuves militaires, les enfants dont les parents sont tombés dans l'exécution des missions de l'État bénéficient également du soutien du gouvernement. Il s'agit notamment de la prise en charge sanitaire. Ces orphelins sont réunis au sein d'un regroupement dénommé Pipi de la Nation. Madame Kone Sissi Odile Dako, directrice générale de l'Office national des Pipi en République du Mali.
À partir du moment où ils ont la qualité de pupille, ça ouvre des droits. Droit à la prise en charge des frais d'actes médicaux et de soins, et aussi droit à la prise en charge des frais de scolarité, droit à des subventions d'entretien, un montant forfaitaire de 100 000 francs par trimestre et par pupille.
Aujourd'hui, les Mali comptent plus de 1200 pupilles de la nation et plus de 2000 veuves militaires.
Sport, football, en Coupe CAF, les Scorpions de Bamako affrontent actuellement à Bamako l'AS Douan de Burkina. Hier soir, le Djoliba AC s'est qualifié pour la seconde phase de la Ligue des champions africaine de football. Pendant ce temps, Eric Sekouchel, sélectionneur national de Zègle, donnait la liste de joueurs convoqués pour les matchs amicaux contre la Zambie. Mariam Maïga.
La manche retour entre le Royal de Bamako et l'AS Douan du Burkina Faso est en cours. À l'aller, les deux équipes se sont séparées sur un score vierge de 0-0. En Ligue des champions, le Djoliba AC s'est relancé dans la compétition. Les Rouges de Bamako ont offert un festival de buts face au Deportivo Mongomo de la Guinée équatoriale. Score final 5-0. Ils se lancent ainsi dans la compétition après leur défaite à l'aller sur le score de 2-0. Par ailleurs, on connaît la liste de 25 joueurs convoqués pour la double confrontation face à la Zambie. Si Ibrahima Koné, Khalifa Koulibaly ou encore Massa Haïdara manquent à l'appel, le jeune binational Moussa Diarra, âgé de 21 ans, intègre pour la première fois le nid des aigles. À noter que les deux duels face à la Zambie se joueront à Bamako au stade du 26 mars, les 23 et 26 septembre prochains.
Mariam Maïga, l'arbitre, vient de donner le coup de sifflet final sur le score de 0 but partout après 90 minutes de jeu. Les deux équipes se sont départagées au tir au but. Les Scorpions de Bamako ont pris le dessus sur l'AS Douan du Burkina. 3 tirs contre 1 pour l'AS Douan.
Studio Tamani, financé par les gouvernements de la Suède, du Danemark, de la Suisse, de la République tchèque et par l'Union européenne.
Dans quelques instants, vous aurez droit au Grand Dialogue et nous recevons Mariam Maïga pour l'introduction du thème du Grand Dialogue. Quel thème sera abordé ce soir?
Où en sommes-nous avec l'arrestation des 49 militaires ivoiriens? Imirana Kilumaïga, c'est le thème central de notre émission Le Grand Dialogue de ce soir. Pour en parler, nous avons quatre invités. Bagabini Keïta, politologue. Dr Ngolo Diarra au téléphone, enseignant-chercheur à l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako. Massiré Diop, journaliste. Nuhum Togo, du parti USR, soutien de la transition.
Merci Mariam Maïga et bon débat. Ainsi se referme cette édition qui vous a été présentée par Imran Akilo Maïga. Nombreux sont les assurés à l'Institut national de prévoyance sociale, à INPS, qui se plaignent de la lourdeur administrative au niveau du traitement du dossier. Ils déplorent aussi le manque d'informations au niveau de ces agences. Toutefois, l'INPS reconnaît qu'il y a quelques difficultés notoires. Cependant, il apporte quelques précisions sur les modalités de fonctionnement. À l'occasion des journées portes ouvertes de l'Institut, Lisa Camara, chercheuse de la télédéclaration à l'INPS, répond aux questions de Lali Tangara.
L'INPS a une seule mission, recouvrer les cotisations des employeurs, moyennant paiement des prestations sociales. Il y a les pensions, les allocations familiales, les indemnités journalières.
Parmi les services que vous venez de citer, est-ce qu'il y a un service méconnu?
Tous nos services sont connus. Il y a beaucoup de primes au niveau de l'INPS. Si vous avez des enfants, que vous touchez l'allocation familiale des enfants, on peut vous donner l'allocation familiale des enfants. Je peux dire qu'autrefois, les services n'étaient pas connus, parce que la communication ne passait pas. Maintenant, avec le NETIC, l'informatique.
Pour une femme enceinte ou bien celle qui vient d'accoucher, est-ce qu'il y a un prime pour cette dernière?
Une femme qui vient d'accoucher, normalement, prend son salaire à l'INPS. Il y a les primes de première nécessité. Par exemple, une femme qui est enceinte. Là, s'il se manifeste au début, il peut toucher des primes avant les 7 mois.
Maintenant, les clients se plaignent beaucoup de la lourdeur administrative pour avoir accès au CERF. Qu'est-ce que vous avez à dire à ça?
C'est vrai que les assurés sont méconnus, ils ne sont pas informés de ce qui se passe à l'INPS. Maintenant, avec le temps qui court, les informations passent. On a un site maintenant où tous nos services sont sur ce site. On demande aux employeurs, aux assurés, maintenant de consulter ces sites.
Et les gens qui ne sont pas allés à l'école, qui ne sont pas sur l'Internet?
Exactement. Bon, on est là en train de faire des diffusions dans les radios, On fait beaucoup de communication maintenant pour être en contact avec nos assurés.
Et quand un assuré ne vient pas prendre ses primes, et que devient cette somme?
L'assuré qui ne se présente pas pour prendre ses allocations, par exemple un assuré qui a accouché, doit prendre une prime pour son enfant. S'il est en retard de 9 mois, on peut lui payer ses 9 mois, mais après les 9 mois, là, ça sera plus valide.
Quel lien existe-t-il entre l'INPS, la CANAM et la CMSS?
L'INPS, la CANAM, il y a un lien très fort parce que l'INPS ne peut pas marcher sans la CANAM. La CANAM a été créée à l'INPS parce que la déclaration de l'INPS est faite et la déclaration de l'AMO le suit directement. Les deux se fait en même temps. Une personne qui vient pour faire la déclaration de l'INPS, s'il paye la déclaration de l'INPS et qu'il ne paye pas la déclaration de l'AMO, on l'exige à faire